On s'est dit que ça serait intéressant de proposer à chaque fois, enfin, on va écouter vos évaluations, mais l'idée, ça serait à chaque fois de donner un rappel de la base de la théologie de l'Alliance, mais après de voir en quoi ça s'applique dans notre vie de tous les jours. Comme ça, on touche à la réalité. Et donc, après avoir vu brillamment le tronc, on va explorer une branche. Et l'idée, c'est d'avoir donc chaque année des différentes thématiques. Alors, cette année aussi, on a joué sur le cru local, mais on envisage faire venir des intervenants pour avoir peut-être des spécialistes qui ont beaucoup plus travaillé la question pour qu'on soit nourri et on ressorte édifié, ce que j'espère est le cas. Et donc, pour l'atelier du jour, eh bien, on s'est dit que ce serait intéressant, quand on parle de l'Alliance, de voir en quoi l'Alliance influe-t-elle dans notre réflexion du culte, de la notion de culte. Donc, pourquoi les cultes? Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on n'y met pas? Et pourquoi? Et puis de se dire, à la limite, peut-être, je pense d'ailleurs, pour beaucoup de monde, je prends l'anecdote, quand on est arrivé ici à Paris, on a visité beaucoup d'églises. Dont le but était un petit peu de voir ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Et on avait des choses étonnantes dans certaines églises. Et quand éventuellement on posait la question pourquoi vous faites ça, même à la limite, on va pousser le bouchon, pourquoi dans un culte vous priez? Pourquoi vous chantez? Pourquoi on prêche la parole? Ah, faut voir les réactions. Quelle question! Et de dire, ben, il y a peut-être une réponse à ça. Et c'est ce que je vous invite à regarder dans cet après-midi, de voir que l'Alliance n'y est pas pour rien. Et en tout cas, peut-être pour vous, c'est des acquis depuis longtemps. Peut-être ça va être nouveau. En tout cas, c'est une invitation à réfléchir nos vécus d'Église et entre autres, répondre à certains pourquoi pour nos vies de culte. Donc voilà, alors merci, j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour cette dernière heure. Et puis donc à la fin, nous aurons un temps de questions-réponses sur tout l'ensemble. Hein. Donc on pourra revenir sur ce qui a été dit dans toute la journée et on espère être à la hauteur de toutes les réponses. On est prêts? Voilà, alors dans ce que je vais dire ici, vous allez réentendre des choses. Hein. Alors c'est, mais en fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est écouter tout l'exposé. De Gaëtan pour après reprendre plein d'éléments là. Vous allez voir qu'il y aura des éléments qui vont ressortir, qui vont ressortir, mais ce qui va ressortir ici, c'est évidemment dans la question de se dire en quoi ça va toucher le culte ici. Alors, c'est vrai que la première chose qui me semblait importante à relever, c'est ça a été mentionné plusieurs fois dans le petit catéchisme de Westminster, la toute première question. Et cette toute première question, je crois, pose l'essentiel à la base. Hein, quel est... Alors, oui, parenthèse. Hein. Bon, moi, je me sens vraiment vieux quand je vois la fabuleuse technique qui s'affichait au mur ici. Merci, c'était fabuleux, Gaëtan. Mais moi, désolé, hein, à part vous concentrer un peu plus, parce que si par hasard j'avais fait quelque chose, heureusement, je n'ai pas fait, parce que ça aurait été d'un pâle en comparaison. Donc, j'espère que votre attention sera suffisamment bonne. Donc, les textes ne vont pas s'afficher. Mais en tout cas, à la question, quelle est la raison principale raison d'être principale de l'homme, c'est intéressant donc de relever, il n'y aura pas les petits cercles autour là, mais la raison principale, là, je vais y arriver, la raison d'être principale de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie en lui éternellement. Et si on y pense, qu'est-ce que le culte, sinon d'avoir un moment où on est dans la présence de notre Créateur, de notre Maître, de notre Roi, et de vivre un moment dans cette rencontre et dans cette communion ensemble, où ce qu'on veut avant tout, c'est qu'il soit glorifié. Mais en le glorifiant et en vivant cette relation intime avec lui, on y trouve vraiment la joie. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on devrait vivre dans nos cultes. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est une raison d'être, et je pense que cette question ici pose les choses, et en effet, en glorifiant Dieu, en réalisant, en nous rappelant, en nous édifiant pour lui rendre gloire, il faut qu'on se souvienne qui il est et qu'on puisse poser des mots sur des choses ici, eh bien, on réalise qu'en effet, le Dieu de l'Alliance est un Dieu qui est Dieu, et ce qu'il fait dans son Alliance est pour nous. Et si on comprend cela, enfin, on pourrait le dire autrement, combien de chrétiens vivent une vie assez triste parce qu'on ne comprend pas à quel point Dieu est pour nous. et à quel point ce qu'il peut faire et nous demander, nous exiger, est tellement beau et nourrissant que quand, plus on comprend cela, plus on veut lui exprimer notre reconnaissance et le vivre dans la joie et donc trouver en lui notre joie, alors éternellement certes, mais déjà sur terre ici. Ce qui me mène à un élément, j'en ai un qui n'a pas été dit par Gaëtan. Donc voilà, c'est encore une fois, ce que je dis ici, c'est vraiment une des branches qui sort du tronc. Donc on a un bel exposé sur le tronc. Dans cette branche ici, il y a quelqu'un que je cite souvent, en tout cas, je fais souvent référence à ce texte de John Piper, très connu, hein, mais je le reprends ici parce que donc c'est un exposé et une phrase qui a vraiment changé mon regard sur beaucoup de choses. Quand il dit « Missions exist because worship doesn't ». Excusez-moi pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est de rétablir le sens de l'évangélisation, le sens de la mission dans le monde. Ce n'est pas une fin en soi, il y a. Le but, ce n'est pas d'évangéliser. Le but, c'est que... Parce que, en fait, ce jour va s'arrêter. Il y a un moment où on n'aura plus besoin d'aller dans le monde pour y prêcher l'évangile. Parce qu'en fait, pourquoi on fait cela? On fait cela parce qu'il y a encore des gens sur cette terre qui ne connaissent pas Dieu au point de lui rendre un culte. Au point d'être... Et quand je parle de rendre un culte ici, je fais tout de suite une parenthèse. Quand j'emploie ce terme, je pense à deux choses. Pas juste le temps du dimanche matin. C'est, on va pas beaucoup parler de ça dans l'heure qui vient, mais c'est aussi le fait que rendre un culte dans l'hébreu, c'est, ça se traduit aussi par servir, travailler pour, et c'est l'idée donc d'être au service de, et on rend un culte à Dieu dans tout ce qu'on fait dans notre existence. En tout cas, si on comprend ça, ça change les choses. Je donne un exemple aussi, et on devrait le faire beaucoup plus souvent. Là. Quand on donne des exemples, surtout quand on parle de soi, on montre la gloire, hein, les meilleurs trucs. Hein, mais on devrait être beaucoup plus souvent comme ça. Mais il m'arrive de donner l'exemple quand j'étais aux États-Unis. Je travaillais dans un garage mécanique, donc réparer les voitures, ce qui n'était pas du tout ma tasse de thé, ce n'était pas du tout mon plaisir, mais il fallait mettre du pain sur la table et c'était une grâce d'avoir un travail. Et les conditions parfois étaient vraiment dures. Et il y avait un moment où, un été en particulier, j'étais vraiment déprimé. Pas de congé, un salaire à coup de lance-pierre, un boulot par-dessus la table. Carole, à l'époque, n'était pas très bien. Les enfants qui tournaient en rond parce qu'eux, ils étaient en vacances, etc. Là, et moi, je regardais les heures et j'étais vraiment déprimé. Et puis, à un moment, je me suis rappelé certaines des prédications du pasteur de l'église où on allait qui nous rappelait ce concept de rendre un culte à Dieu en toute occasion. Et pour moi, la transformation a été de me dire... Le prochain client qui vient, la prochaine voiture pour laquelle je vais faire un travail pénible, et si je le faisais pour Christ? J'essaie de m'imaginer que c'est Jésus qui venait. Alors, excusez-moi pour le côté très... je ne pense pas que Jésus serait mieux qu'une Mercedes, parce que je travaillais sur les Mercedes, mais qui sait? Mais en tout cas, mais le client qui arrivait, qui parfois était pénible, etc. Là, j'essayais de me dire, et si j'étais en train de le faire pour mon Seigneur? C'est impressionnant le changement d'état d'esprit que ça donnait. Ça, subitement, j'étais vraiment motivé. J'avais envie de le faire et de lui sourire et de donner des choses. Les clients devaient se dire, tiens, il est bizarre, c'est gardiste. Mais je crois que rendre un culte à Dieu, c'est ça. C'est d'être constamment dans tout ce qu'on fait, de vouloir chercher la gloire de Dieu et son service ici. Eh bien, Piper donc, est en train de dire que tant que le monde n'est pas dans sa totalité en train de rendre un culte, il y aura une raison pour la mission. Mais le but ici, ce n'est pas de parler de la mission en tant que telle, mais c'est de dire, le culte est au bout. Et donc, de se dire, il y a du travail missionnaire parce qu'on a encore besoin de travailler et d'annoncer et d'encourager cette communion et ce temps de culte avec Dieu. Donc ça, c'est intéressant, donc, comme quoi le culte est une fin en soi. Rendre un culte à Dieu, c'est quelque chose, en effet, que l'on va vivre éternellement avec une beauté inouïe d'être en pleine communion avec Dieu, avec une quantité de choses qui vont être nos vies ici. Alors, là, je vais revenir sur des choses qui ont été évoquées à nouveau en guise de remarque. Mais si on pense au livre de la Genèse, alors je ne vais pas parler des trois premiers chapitres, on en a beaucoup entendu, mais je vais évoquer un tout petit passage, juste les premières lignes de Genèse 4. Genèse 4 commence par quoi? Parce que ça évoque quelque chose aux uns et aux autres. Alors, il y a, avant ça, il y a intéressant, il y a Adam connu Ève. Et on a entendu tout à l'heure qu'un certain mandat donné à l'homme, c'était de multiplier la terre ici. Et on sait qu'Adam connu Ève, ça voulait dire qu'elle est tombée enceinte, quoi. Donc, il est intéressant de voir qu'il est dit qu'Adam connu Ève, voilà. Qu'est-ce qui est dit tout de suite après? Il y a deux garçons qui naissent. Et qu'est-ce qu'ils font, ces garçons? Ils travaillent. Il y en a un qui travaille la terre, l'autre qui travaille les troupeaux. Et qu'est-ce qu'ils font de suite après? Ça se passe en un verset à la fois, là. Ça va très très vite. Hein. Qu'est-ce que font ces deux garçons à l'issue du travail? Ils rendent un culte. Intéressant. Parce que là, on est vraiment au tout début de l'histoire ici. On voit donc que les deux garçons rendent un culte. Mais il y en a un pour qui le culte passe et il y en a un autre pour qui le culte ne passe pas. En fait, chronologiquement, on va dire, il y en a un pour qui le culte ne passe pas, c'est le premier qui a eu l'idée, et il y en a un pour qui le culte passe. Alors là, je trouve que ça devrait attirer un tout petit peu notre attention, parce qu'on pourrait dire, pourquoi il y en a un pour qui le culte ne passe pas, et il y en a un autre pour qui le culte passe. Alors, je voudrais poser la question ce matin à 8h30, je ne sais pas ce que vous auriez dit, mais maintenant, quand même, vous avez des pistes, j'imagine, sur ce coup-là. Pourquoi le culte offert par Caïn ne passe pas? Et pourquoi le culte offert par Abel passe?
C'est son cœur.
Pardon?
C'est son cœur.
Son cœur? Moi, je pense que les deux avaient leur cœur. Il y en a un qui a le cœur qui change après. Hein. Mais je ne dirais pas que c'est le critère. Il n'y a pas la dimension de vie et de mort, et donc n'est-ce pas intéressant de se dire que le culte qui passe, c'est le culte qui est conforme à l'Alliance. C'est-à-dire qu'il y a, un culte offert à Dieu, non pas... Oui, on a deux dimensions du culte ici. On a la dimension de celui qui... Alors, on ne sait pas ce qu'il a compris. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais on le sait plus tard. Il y a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui étaient dites, qui ne nous ont pas été retranscrites ici-là. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y en a un qui donne un sacrifice d'un animal dont le sang doit couler. Et je ne sais pas s'il a compris ce qu'il faisait, mais il l'a fait par la foi, parce qu'il savait que c'était un culte agréable à Dieu. L'autre a plus probablement fait un culte, un sacrifice aussi, mais un sacrifice de lui-même. Et si on comprend ce qui est agréé ou non par Dieu dans le reste de l'Écriture ici, on peut fortement penser, surtout quand on voit l'attitude de Caïn après, hein, dans les versets qui suivent et qui vont le mener à tuer son frère, il y a une forte probabilité que Caïn avait dans l'esprit de dire « Seigneur, voilà, je vais te faire quelque chose, donc je t'achète. Parce que je t'offre ça, il faut bien que tu me donnes quelque chose, Seigneur. Il faut bien que tu bénisses ma vie. Il faut que tu... » C'est-à-dire que c'est Caïn qui décide ce qu'il va faire de Dieu au lieu d'être Abel qui donne à Dieu ce qu'il lui demande de faire là. Oui. On peut avoir des... Oui, je parle de prospérité ici. Mais en tout cas, intéressant maintenant, alors sans transition, en fait j'en fais une, observons les cultes autour de nous. Oh, pas les nôtres, ils sont tous très bien. Observons les cultes autour de nous et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un qui sort du culte va dire « Ah, alors ça c'est un bon culte. Ah, alors ça fait... » C'est un bon culte. On va dire, qu'est-ce que tu vas définir comme étant un bon culte? Et on peut être surpris par les réponses. On va entendre des choses du style...
On a bien dansé.
Pardon?
On a bien dansé.
On a bien dansé. Alors ça, je ne l'avais pas mis dans mes notes. Mais on va avoir des gens pour qui la définition d'un bon culte, c'est précisément un culte qui m'a fait du bien. Je suis arrivé découragé, ressort encouragé, voilà. Et pour moi, le culte, c'est un moment, ça doit faire du bien. On doit ressortir édifié, etc. Là, j'ai dit le mot aussi pour d'autres, c'est l'édification. Je fais une petite nuance ici, c'est-à-dire le but du culte, c'est qu'on soit édifié. Pour d'autres, ça serait le but. Le but, c'est d'être enseigné. Le culte, la fonction du culte, c'est de nous enseigner. Donc, on doit repartir avec un bon bagage théologique. Et quand je dis tout ça, c'est beaucoup de bonnes choses. Hein. Pour d'autres, le culte, c'est un culte si on évangélise pendant le culte. C'est qu'on doit être sûr que si par hasard, il y a un ou deux non-chrétiens qui rentrent, ils se convertissent avant la fin du culte ici. Donc, le culte doit toujours avoir un appel à l'évangélisation et on doit tout faire pour parler à des personnes non-chrétiennes pour qu'elles viennent à Christ, etc. Là, qu'est-ce qu'on pourrait d'autre voir? Pour certains, dans le culte, on doit absolument être toujours innovant, il faut toujours que ce soit créatif, etc. Là, et on en passe. Et puis pour d'autres, s'il n'y a pas une tradition liturgique bien établie, ce n'est pas un vrai culte. Quoi. J'ai entendu des choses comme ça. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'années en arrière, ce n'est pas passé, heureusement, mais quelqu'un assez influent dans notre Union nationale, de l'UNEPREF, voulait absolument, il avait vraiment l'idée que toutes les UNEPREF, à l'époque elle s'appelait encore ERI, que toutes les ERI aient exactement la même liturgie au cantique près dans toutes les églises le même dimanche. L'argument étant de dire comme ça on vit l'unité et si par hasard un de nos paroissiens va dans une autre église, il trouvera la même chose. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit si vous faites passer ça, je pars. Moi, pour moi, c'était intenable d'avoir à ce point un blocage qui était vraiment de dire on doit tenir une tradition. Et on le fait par tradition. Et je pense que ça, c'est peut-être ce qui nous guette un petit peu plus ici. Mais le point ici, c'est de dire quoi ? La tradition n'est pas mauvaise. L'enseignement est franchement bon. Faire du bien, on est pour. Pourquoi pas annoncer l'évangile ? Tout ça, ce sont de bonnes choses. Mais est-ce une définition du culte ? Alors, j'ai lu un petit bouquin il y a quelque temps en arrière. Dont le titre est assez intéressant, il est en anglais. Le titre est intéressant parce qu'il fait référence à un verset qui passe quasiment inaperçu dans le livre des Hébreux, alors qu'il est dans un autre contexte, mais le verset dit des choses assez puissantes puisqu'il dit, il interpelle à rendre un culte à Dieu avec révérence. En anglais, with reverence and awe. Alors, awe, c'est un peu compliqué à traduire. Il y a le côté de crainte, il y a le côté d'émerveillement, il y a le côté de grandeur. Hein. Awesome, comme on dit, je me souviens, un camp de jeunes qu'on avait fait avec les Américains, on entendait awesome tout le long de la journée. Ah, it's awesome, ouais. Mais c'est lié quelque chose de grandiose, de beau, qui évoque la crainte, mais la révérence. Et l'auteur, deux auteurs dans ce livre disent ceci. Les auteurs du livre, donc, with reverence and awe, relève une sérieuse préoccupation dans la pratique des cultes presbytériens réformés. Enfin, ça doit nous parler, parce qu'on peut parler des presbytériens réformés. Il parle des États-Unis. C'est très français aussi. Leurs observations pointent sur le constat que derrière des changements de forme de culte, ils assistent à des changements dans la forme du culte, derrière des changements dans le style de musique, etc., il y aurait en fait un changement de fond, un changement théologique. Il continue en disant, qu'est-ce qui, par exemple, mène des églises solides ? Solide veut dire dans le sens dont la doctrine est solide. Qu'est-ce qui, par exemple, mène des églises solides à parler du vécu des cultes comme une expérience, alors que jusque-là, on parlait de l'idée de rendre un culte ? Alors, en anglais, excusez-moi, en anglais, il était déjà de dire, est-ce qu'on a un culte qui est experience worship, ou est-ce que c'est service ? Et oui, le mot service en français d'ailleurs, c'est-à-dire, est-ce que la question, c'est de dire, qu'est-ce qui fait qu'on va parler d'expérience, c'est-à-dire ce que je reçois par rapport à la bascule qui se fait par rapport au fait de ce que je donnais, de ce que je venais pour donner à Dieu, lui rendre un culte, hein, etc. Là. Et donc, il continue en disant, ils argumentent que ce changement a pour fondation la vision du culte et de l'Église qui tourne autour d'une question qui est la suivante. Est-ce que la vision du culte est centrée sur Dieu ou est-ce que la vision du culte est centrée sur soi ? Et là, ça peut commencer à répondre un petit peu à certaines de nos questions. Le point est donc de rappeler que lors du culte, c'est leur thèse un petit peu dans ce livre, lors du culte, Dieu est la raison. Dieu est la personne mise à l'honneur par l'audience qui est là, par l'ensemble du groupe ici. L'audience est là pour Dieu, pas pour les personnes qui sont là et, ou même qu'on voudrait évangéliser pour repenser à ce que John Piper disait ici. L'objectif du culte, c'est Dieu. Notre Dieu en tant que Seigneur est celui que nous adorons pour qui il est et pour le fait qu'il est le Dieu de l'Alliance. Alors ça, c'est une question posée. Et à partir de cette question, on va revenir un instant sur quelques éléments de l'Alliance qu'on a évoqués ici pour apprévoir et au fur et à mesure de voir en quoi ça peut nous parler ici. Hein, qu'est-ce qui fait l'Alliance ? Qu'est-ce qui fait l'Alliance ? Alors, je vais l'aborder sur un angle légèrement différent. L'Alliance, donc, l'Alliance de grâce, telle que nous en bénéficions encore aujourd'hui, ce qui nous a été dit, c'est qu'on se... pour comprendre l'alliance, on doit comprendre que Dieu est Dieu, qu'il est le créateur, et on doit comprendre que l'homme a pris une décision stupide, qu'on appelle la chute, et qui a rompu l'alliance qui était posée au départ, qui mène Dieu à proposer une deuxième alliance, qui est une alliance de rédemption et de restauration. Alors on peut se poser la question, si ça c'est la base de ce que nous croyons, pourquoi est-ce important de nous en rappeler? Lorsqu'on pense à nos cultes, pourquoi est-ce important de nous rappeler qu'il y a un créateur, que nous étions créés pour être en communion avec lui, que nous avons rompu cette communion et que Dieu nous donne à nouveau la possibilité de vivre en communion par l'alliance scellée en Jésus-Christ et de la vivre avec lui? Pourquoi est-ce important de nous en rappeler? Pourquoi est-ce important de reposer ça au moment où on réfléchit à nos cultes? On peut dire beaucoup de choses ici, mais je vous donne des pistes ici. Puis évidemment, dans ce que je vous propose ici, on peut aller beaucoup plus loin, on peut discuter plus encore. Mais pistes que je propose ici, pourquoi ça serait important demain matin, au moment où on va rentrer tous les uns les autres dans nos différents lieux de culte, de nous rappeler le contexte biblique de l'Alliance, le fait qu'on est créé par Dieu, qu'il y a eu la chute et qu'on est au bénéfice de la rédemption en vue de la restauration? Eh bien, je crois que ça nous rappelle d'où on vient et où on va. Si on oublie d'où on vient et où on va faire une quantité de stupidité absolument extraordinaire ici. Mais en se rappelant d'où on vient, on se rappelle qui est Dieu. On se rappelle qui nous sommes. Et on se rappelle qui nous sommes dans le sens qu'on a rompu l'alliance en Adam et qu'on est au bénéfice d'une rédemption qui nous est offerte par Jésus-Christ. Et dans un sens, où est-ce qu'on va? Eh bien, comme ça nous a été dit, on va vers le fait que les deux jardins vont se retrouver, que les villes vont se retrouver, qu'on va rentrer dans une pleine communion avec Dieu et qu'on est en train de cheminer dans ce sens ici. Donc ça, c'est un premier élément qu'on peut garder dans nos pensées ici. Deuxième élément, c'est que Dieu, en tant que Dieu, créateur, rédempteur, en tant que roi, en tant que souverain, met en place un salut pour les hommes, et on l'a vu dès le jardin d'Éden. Il le fait avec un salut dont l'accomplissement est en Jésus-Christ. Et là, on peut aussi se poser la question, si on est clair dans nos têtes, au sujet de ce schéma de l'évangile qui nous est donné dans l'Alliance de Dieu, pourquoi est-ce que c'est important de nous rappeler? Eh bien, c'est pour que les choses soient bien en place. C'est un petit peu ce que j'aime à lire quand on regarde les béatitudes dans le sermon sur la montagne. La première des béatitudes, c'est: on ne pourra aller nulle part si on n'est pas extrêmement au clair sur notre juste place. Dieu est Dieu. Nous sommes ses créatures. Et quand on pense, si le but du culte, c'est de me faire du bien, est-ce que Dieu est encore Dieu? Ou est-ce que ce n'est pas Dieu qu'on place comme serviteur pour qu'il nous fasse du bien? C'est parce qu'on va se souvenir que c'est lui le créateur, c'est lui le sauveur, c'est lui le roi, que ultimement, oui, on va en recevoir un bénéfice. Mais parce que les choses sont dans un ordre juste ici. Donc c'est important qu'on se rappelle que c'est lui qui est là, que nous sommes au bénéfice de ce qu'il fait. Et élément supplémentaire ici, c'est que le rapport de salut et de vie qui nous est donné par Dieu, il est intéressant de voir que dans l'évangile, il y a un chemin. Il n'y a pas 36 options. Et quand Jésus va dire, vous savez le chemin au Père, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il est en train de dire ici, ben oui, il y a un chemin, un seul chemin, une seule façon de le faire. Quand je dis une seule façon, alors, je ne parle pas ici de tous les détails, le nombre de cantiques, etc. Mais il y a un chemin qui est l'axe vers lequel on peut aller ici. Et ce n'est pas à nous d'en décider. Et je pense que le problème de Cain a été d'avoir voulu être celui qui décidait pour lui-même. En train de dire, oh, mais on ne va pas faire couler du sang à chaque fois. Moi, je peux t'offrir quelque chose de beaucoup mieux, Seigneur, regarde. Et de se dire, mais est-ce qu'on réfléchit au fait que le Seigneur donne un chemin et que ce n'est pas nous qui devons forcément décider ce qu'il en est ici? Et on pourrait poser la question, est-ce que le Seigneur nous donne un chemin pour le culte? Bien, je pense, mon propos cet après-midi, c'est de dire, il nous donne les principes de ce chemin. Il ne note pas tous les détails, il nous laisse une liberté sur les détails, mais il nous donne des principes moteurs qui devraient nous interpeller, en tout cas que j'aimerais vous encourager à voir cet après-midi comme interpellant. Je reviens sur l'annonce en Éden. On en a parlé, on en a entendu parler, l'annonce en Éden avec Genèse 3:15. J'en reviens parce que c'est intéressant de voir que cette annonce ici, donc je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, l'annonce de l'évangile, l'annonce de ce qui va être la centralité de cette alliance ici, eh bien, ça peut aussi nous interpeller de dire dans nos cultes, pourquoi nous rappeler ces choses, pourquoi pourquoi les avoir devant nous ici, eh bien, pour nous rappeler dans nos cultes aussi la centralité de l'évangile. Si c'était aussi important au point d'être posé dès les premières paroles de l'annonce du salut en Jésus-Christ dans le jardin d'Éden, et si ça va être constamment toute la lignée que l'on va voir dans toutes les Écritures ici, est-ce que ça ne devrait pas être omniprésent dans nos cultes, le fait que l'Évangile est là? Ça serait intéressant de relire ou réécouter certains de nos cultes. Je ne parle même pas des messages qui sont donnés par la prédication et de dire, est-ce que l'Évangile est au centre? Est-ce que l'Évangile est systématiquement au centre de ce qui se dit et de ce qui se fait ici, hein? Et encore une fois, c'est un point qui est tellement important que Caïn l'a manqué. Et beaucoup d'autres l'ont manqué. Et rappelons-nous donc à quel point c'est absolument fondamental ici. Et ce qui va avec, c'est donc ce qui est dit, ça aussi ça a été dit, ça a été évoqué, mais c'est quand même Genèse 3:15 que je viens d'évoquer. Quelques versets plus tard, Genèse 3:21, donc on est juste quelques versets plus tard, lorsque, comme Gaëtan nous l'a dit, on voit le manteau de la grâce qui est posé sur l'homme. C'était là pour le couvrir. Et toute l'idée d'être couvert, c'est vraiment l'idée d'être couvert par la grâce. Et donc, ce manteau de la grâce est là pour couvrir, parce qu'il y a eu du sang qui a coulé, du sang innocent qui a coulé, eh bien, je peux être couvert par la grâce. Et encore une fois, le culte agréé ou pas agréé de Caïn et Abel, qui doit nous rappeler aussi la place fondamentale de la grâce dans nos cultes. Et je ne suis pas en train, il faut toujours dire tout ça, se dire, je fais un check sur tout ce qui doit être dit, mais est-ce qu'on a dans nos pensées la notion de grâce? Quand on annonce la loi et la confession des péchés, par exemple, est-ce qu'on a dans nos pensées la notion de grâce? Est-ce qu'elle est omniprésente dans nos pensées, dans nos cœurs? Parce qu'on peut vite passer à côté aussi. On peut vite passer à côté de cela. Donc voilà, quelques éléments importants à revoir ici. Et puis, un autre élément, toujours dans ce qui a été évoqué ici, de voir comment Dieu révèle la grâce, révèle l'alliance et la révélation de la grâce spéciale. On voit que l'enjeu de l'alliance, c'est le don de Dieu. Dieu se donne, Dieu donne son Fils. Et nous sommes interpellés à y répondre par la foi, avoir une réponse de foi. Et un des éléments où on voit une continuité dans tout l'Ancien Testament qui se poursuit dans le Nouveau Testament, hein, on a évoqué ce leitmotiv, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. On a évoqué que c'est à chaque fois Dieu qui prend l'initiative et qui fait tout ce qui est nécessaire, et que à chaque fois l'homme qui répond par la foi. Et il est intéressant de voir également que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, dira Paul, et de se rappeler aussi ce texte qui a ébranlé un Martin Luther et qui nous ébranle tous, le juste vivra par la foi. Maintenant, petit rappel, où se trouve le verset, le juste vivra par la foi?
Habacuc,
Ancien Testament. C'est quand même intéressant de voir que la notion de réponse de foi, elle est omniprésente dans l'Ancien Testament et elle est particulièrement écrite ici et là. Et donc, on doit se rappeler aussi, puis élément aussi dans la chronologie des choses, comme ça nous a été aussi évoqué, de voir dans la chronologie de la révélation de l'Alliance, de voir que dans l'Alliance spéciale, à l'interpellation du peuple de Dieu, on voit qu'Abraham est en tête de ligne, c'est à lui que les choses sont dites en premier par rapport à la continuité à partir de Genèse 12, et de voir qu'Abraham, ce qu'on sait d'Abraham, c'est que c'était sa foi qui était mise en avant. Et de se dire, intéressant, dans nos cultes aussi, de se dire pourquoi est-ce important de nous le rappeler, parce que nos cultes sont un acte de foi. Et en quoi nos cultes sont des actes de foi? C'est que comme pour un croyant de l'Ancien Testament qui n'avait pas rencontré Jésus-Christ, il n'était pas encore venu, qu'est-ce qui pouvait sauver et transformer un croyant dans l'Ancien Testament? C'était la foi, c'était de croire Dieu. C'était, le contenu n'était pas encore là. Mais si Dieu disait, en faisant ce sacrifice, vous serez pardonné de vos fautes. L'enjeu ici, ce n'était pas le sacrifice, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. L'enjeu ici, ce n'était pas de dire ce pauvre agneau qui est mort, il n'a aucun pouvoir de pardonner mes péchés, si on y pense un instant. Mais Dieu me demande d'amener cet agneau au temple pour qu'il soit sacrifié pour le pardon de mes péchés. Je le fais pourquoi ? Parce que Dieu me le dit. Et je crois Dieu. Je me dis, Dieu m'accorde son pardon. En faisant cela, c'est un acte de foi. Si je commence à raisonner, évidemment que je vais dire, ce pauvre agneau, il n'a rien fait pour... Il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Mais Dieu, tu le demandes parce que ce que tu veux voir, c'est, en réponse, c'est de voir, tu me crois. Le jour viendra où tu verras pourquoi il fallait faire ça. Maintenant, nous savons pourquoi il fallait faire ça. C'est Jésus-Christ qui a pris sur lui. Et donc, nous poursuivons notre adoration au Dieu par un acte de foi. Et c'est ainsi que dans nos cultes, nous pouvons dire, nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons au Fils Jésus-Christ. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à l'Église universelle. Nous croyons nos confessions de foi. C'est une façon de dire et de montrer dans nos cultes que nous sommes là parce qu'on est un peuple de foi. Nous croyons et notre réponse à Dieu est une réponse de foi. Ça va jusque-là ? On avance encore un cran, puis après on va venir dans le pratique. On avance encore un tout petit cran ici pour se rappeler que c'est intéressant de voir que dans la révélation de l'Alliance qui nous est donnée, pour notre compréhension des choses, on voit Dieu rentrer dans l'histoire, on voit Dieu poser les choses au cours des siècles et des générations, et il est intéressant de voir que Dieu va poser des fondations donc en Abraham, on l'a vu, puis en Moïse, puis en David, puis en Jésus-Christ. J'aime l'idée de dire que c'est un entonnoir qui s'ouvre. Ça part d'un homme, ça touche une famille, ça touche un peuple, ça touche une nation, et ça va dans le monde entier. Fait qu'on voit cette parole, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple », qui devient vrai pour les nations entières. Mais c'est révélé sur un ensemble de générations. Et on voit les choses qui vont en s'élargissant et en prenant beaucoup plus de sens les uns derrière les autres. Et on pourrait se poser la question aussi, pourquoi est-ce important de nous rappeler cela ? Et là, vous allez voir, j'arrive un peu à mon point. Pourquoi est-ce important de nous rappeler cela ? Parce que nous, aujourd'hui, nous représentons quelle partie de cette histoire ? Les nations. À Paris, ici, on n'est pas en terre d'Israël, on n'est pas le peuple d'Israël en tant que tel. Donc, on est touché par cette partie de l'Alliance qui touche les nations ici. Seulement, voilà, en étant parmi les nations, eh bien, pour moi, un des grands intérêts de voir cette continuité biblique, de voir comment Dieu pose les choses et de voir que c'est de là d'où nous venons, c'est précisément de dire, au moment où demain nous allons nous retrouver pour rendre un culte à notre Dieu, est-ce que nous sommes en train de dire, on va tout inventer maintenant ? Calvin disait, il n'était pas là pour réinventer l'Église. Il voyait toute l'importance de l'héritage qu'on avait ici. Est-ce qu'on peut s'imaginer un seul instant qu'au moment où nous rendons un culte à Dieu, nous sommes au bénéfice de tout ce qui a été transmis siècle après siècle, et en réalité, alors que nous sommes le peuple de son alliance, nous sommes son peuple, il est notre Dieu, nous héritons de tout cela. Cela veut dire que rien de ce qui a été fait avant n'est vain. Rien de ce qui a été fait jusque-là n'a été fait en disant c'est une parenthèse, maintenant on passe à autre chose. Tout ce qui a été fait qui nous précède en fait, nous donne de saisir à quel point nous sommes en présence d'un grand Dieu et d'un Dieu qui mérite toute notre attention. Ce qui veut dire que tout est important et qu'on peut trouver dans les textes de la Genèse, on peut trouver dans l'histoire d'Abraham, dans tous les extraits qui sont là avec Moïse, avec David, avec les prophètes, avec l'exil, on parlait tout à l'heure. Et tout ça nous mène à comprendre la grandeur de la venue de Jésus-Christ, la grandeur du culte qu'on peut lui donner. Et en tout ceci, justement, nous y trouvons un certain nombre de racines. Et petit détail, alors ce n'est pas dit que pour ça, mais n'est-ce pas intéressant que Paul, l'apôtre pour les païens, celui qui allait annoncer l'évangile aux nations, n'est-ce pas intéressant de voir qu'il commençait presque toujours dans les synagogues ? Et qu'en commençant presque toujours dans les synagogues, il faisait quoi ? Il était en train de dire, il y a une continuité. Ce que vous avez cru jusque-là, il vous manque juste l'élément central qui s'appelle Jésus-Christ. Mais il était en train de dire, il y a une continuité dans le culte que vous avez reçu de vos pères, et nous allons donner du sens à cette continuité maintenant, sachant qu'il y a des choses qui vont changer, il y a n'y a plus de place pour les sacrifices, il y a des choses qui n'ont plus raison d'être parce que c'est accompli en Jésus-Christ, mais il y a une continuité qui fait qu'on a des choses à apprendre ici. Et là encore, je pose la question, dans nos cultes, est-ce que nous réfléchissons à cette continuité? Est-ce que nous pensons complètement innover? Parlais tout à l'heure de ton épouse qui a connu Brooklyn Tabernacle à New York ici, de se dire, est-ce qu'on peut se dire, on va inventer une nouvelle forme de culte où finalement, on va avoir une splendide chorale qui va nous toucher du début à la fin, et puis une prédication qui va vibrer ici. Mais est-ce un culte? Est-ce un culte où il y a... On peut se poser la question, est-ce que c'est un culte où il y a un peuple d'alliance qui est en train de répondre à son Dieu et à son appel, etc. Et on pourrait dire, il va manquer un certain nombre d'éléments dans cette formule-là. Alors, est-ce qu'on est là pour inventer une nouvelle église, pour toucher les Parisiens? Inventer une nouvelle église pour toucher la France? Est-ce que c'est là l'objectif? Ou est-ce qu'on est héritier de quelque chose de fabuleux et que notre première responsabilité, c'est de dire, Seigneur, en quoi on peut te rendre un culte? En se posant aussi la question, en quoi pouvons-nous conduire les gens autour de nous à comprendre ça pour te rendre un culte? Ça va? On avance encore un peu? On est bon dans les temps? Oui, ça va encore. Alors, le point ici, donc, c'est de dire, quand on pense à ces choses-là, de se poser la question, pourquoi est-ce que ça peut être important? Le dernier point étant de dire, oui, on a une histoire, on a un enracinement, et c'est donc là que j'arrive dans cet enracinement pour dire, dans l'histoire de la révélation, il y a des moments pour lesquels on peut porter un regard particulier. Et je pense, et ça a été évoqué par Gaëtan tout à l'heure aussi, je pense à ce moment où on est dans la période du Sinaï, dans la période où le peuple est là, arraché des griffes d'un autre maître par Dieu lui-même, libéré de l'esclavage, conduit dans le désert en vue de la terre promise, et dans ce désert, tiens, c'est intéressant, l'argument que Dieu donne à Moïse de donner à Pharaon pour les laisser partir, c'est pas un argument social, c'est pas de dire t'es un vilain roi, tu fais du mal à mon peuple, donc je vais te taper sur les doigts et je vais laisser partir mon peuple. Non, l'argument avancé, laisse aller mon peuple à 3 jours de marche pour qu'il me rende un culte. La marche au désert, la libération de l'esclavage a pour motivation première, publiquement annoncée, celle d'aller rendre un culte. Et c'est intéressant d'ailleurs que Moïse répète ça à plusieurs reprises et qu'il y a l'idée de rendre un culte, il y a l'idée d'offrir des sacrifices, et de vivre une célébration. Enfin, il y a un vocabulaire enrichi qui nous donne aussi des idées ici, mais il se passe quelque chose ici. On a évoqué la venue du tabernacle, donc avec tout ce que ça peut représenter ici, mais c'est à ce moment-là de l'histoire que les détails sont donnés pour construire ce tabernacle. Pour être le lieu de rencontre, ça a été dit. Et donc, pour être le lieu de la rencontre entre Dieu, le Dieu de l'Alliance, et son peuple, le peuple de l'Alliance. Et c'est donc là qu'on va trouver des formes qui sont données, des formes, des éléments qui... c'est ma thèse à ce stade ici, des éléments qui devraient nourrir notre pensée concernant le culte. Et c'est précisément parler de l'Alliance. Et quand on parle de l'Alliance, de parler de ce qu'on appellerait un schéma d'Alliance. C'est-à-dire de dire qu'il y a là un modèle qui nous est donné, qui est franchement parlant. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure dans les questions-réponses, à moins que vous n'en teniez plus en cours de route, vous m'arrêtiez, mais la proposition que je vais vous faire ici, c'est de dire, mais ne voyons-nous pas là quelque chose de très pertinent pour comprendre comment rendre un culte à Dieu dans ce qui nous a été dit ici? Alors, je reprends, pour certains d'entre vous qui avaient étudié ça, à la faculté Jean Calvin, ça va être du rappel ici, mais on retrouve des choses très intéressantes, c'est que le schéma type d'alliance, donc hors contexte directement biblique, mais dans la façon dont un souverain, faut penser à un schéma d'alliance, donc il s'agit d'un souverain qui a conquis une nouvelle terre, par exemple, et qui donc s'adresse à ce peuple. Et ce peuple de cette nouvelle terre devient son peuple. Il est acquis maintenant. Il est rédempté. Ça n'existe pas, mais bon, il est racheté. Il est rédimé, ça se dit en bon français gaulois. D'accord, bon, il est rédimé, hein, c'est bien ça. En tout cas, il est le nouveau roi, le peuple lui appartient maintenant. Alors, suite à toutes sortes de circonstances, et il est intéressant de voir, d'ailleurs, sauf erreur, Carole, il faut absolument que tu me reprennes là-dessus, parce que ça fait je ne sais pas combien d'années, bien avant qu'on vienne à Paris, il faut aller au Louvre et aller voir dans le département du Proche-Orient ancien, il paraît qu'il y a cette pierre-là, où il y a un contrat d'alliance, justement, de l'époque, sauf erreur. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, l'idée ici, c'est qu'on retrouve un préambule, on se prépare à rencontrer le souverain, et on retrouve un prologue historique, c'est-à-dire qu'on rappelle les circonstances qui font pourquoi maintenant notre roi est celui-là et pas celui d'avant. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on soit maintenant son peuple à lui? Donc le rappel des faits, rappel historique. Puis le souverain va donner ses règles et va dire, ben, dorénavant, puisque maintenant vous êtes mon peuple, voilà ce que j'attends de vous. Hein, donc il va donner une énumération de règles du style, à partir de maintenant, vous allez me donner 50% de vos récoltes, vous allez me donner ci, vous allez me donner ça, vous allez faire ci comme ça, vous allez adorer tel dieu. Enfin, il va donner toute une règle de choses qui vont être faites ici. Et à la fin de cette énonciation, il va y avoir souvent une copie du document pour que les gens puissent savoir, ben voilà ce qui a été dit, c'est mis par écrit, de façon à ce que ça laisse une trace. Il va y avoir également souvent des témoins ou des signes qui vont être posés pour qu'on se souvienne, ou des monuments, ou des choses qui vont faire qu'on se rappelle le moment solennel qui a été vécu. Et puis, intéressant aussi, le souverain, généralement, n'en restait pas là. Il disait, bon, alors, maintenant, je suis votre roi, j'espère que vous l'avez compris. Vous êtes mon peuple, j'espère que vous l'avez compris. Je vous ai donné un certain nombre de principes moteurs pour la vie qui est devant vous. Alors maintenant, ce n'est pas compliqué. Si vous respectez cela, si vous me donnez partie de vos récoltes, si vous faites tout ce que je vous demande là, moi, en tant que souverain, je vous garantis la protection. Je vous garantis que j'aurai une armée pour vous défendre. Je vous garantis que je vais vous protéger socialement, je vais vous donner tout ça, tout ça, tout ça. Par contre, si vous jouez aux imbéciles, si vous ne me rendez pas ce que vous devez me rendre, si en plus de ça, vous commencez à monter une armée pour m'agresser, alors là, vous êtes très mal. Et là, je paraphrase, hein, mais là vous risquez de voir des choses, c'est que je vais venir vous frapper. Et on voit ça dans un schéma type courant dans le Proche-Orient ancien. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve tout à fait ça avec Moïse. On retrouve tout à fait ces éléments, et je pense particulièrement au contexte donné aux 10 commandements. Intéressant de voir qu'il y avait une convocation solennelle, le peuple devait se préparer. C'était pas juste venir, on met les mains dans les poches, et puis tiens, pendant que je suis dans la rue, il y a un message télévisé du président, tiens, on va peut-être l'écouter, là, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui. Non, il y avait une sainte convocation qui était faite. Et d'une façon générale également, il y avait, dans le cadre du sabbat, il y avait une préparation au sabbat. Et la préparation au sabbat, juste pour se rappeler les choses, hein, le sabbat commençait à quelle heure de la matinée? La veille au soir. C'est un piège. Hein. C'est-à-dire qu'on se préparait la veille au soir pour se retrouver le matin, reposer, pour vivre un culte dans la présence de notre Dieu ici. Toute une préambule, toute une préparation. Parfois aussi, il fallait se laver, il fallait se draper, il fallait se préparer pour qu'on ne venait pas comme ça, les mains dans les poches et tout ce qui s'ensuit ici. Et on voit dans le contexte des 10 commandements, le rappel de qui est Dieu. Hein, on en a eu une évocation tout à l'heure aussi. Hein, « Je suis votre Dieu ». Vous êtes mon peuple, hein, sous-entendu. Je suis celui qui. Et voilà, il s'avère que vous êtes mon peuple parce que je vous ai libéré de l'esclavage en Égypte, parce que je vous ai mené jusqu'ici, etc. Et on voit Dieu qui pose le principe de qui il est. Et là, on a un schéma, mais qui peut être bien sûr très élargi sur tout le reste. Puis après viennent eh bien, les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 grands principes moteurs qui font que on est son peuple et qu'il est notre Dieu, ou qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Et je ne m'étale pas trop plus là-dessus. Et puis, après, il va y avoir des signes qui vont être posés. Par exemple, suite au Exode 20 des 10 commandements, un tout petit peu plus loin, chapitre 24 et verset 8, il est question du signe du témoignage par du sang versé. Il est question aussi des tables qui vont être là pour représenter les textes ici. Et puis, il va y avoir le signe de l'alliance, qui est le culte, qui va être la circoncision. Enfin, il y a plusieurs choses qui se font ici où le signe est posé ici. Eh bien, ma proposition à ce stade, et qui n'est pas loin que de la mienne, hein, je veux dire dans la continuité, en tout cas, de beaucoup de choses qui se font, et entre autres de la réforme, ma proposition, c'est de dire, eh bien, si nous sommes le peuple de l'alliance, si nous sommes le peuple de Dieu, dont Dieu est notre Dieu. Et si nous sommes interpellés à chaque fois que nous lui rendons un culte, à vivre cette rencontre avec lui, est-il possible qu'en continuité avec tout ce qui a été posé dans l'Écriture, est-il possible que, pour ne pas tomber dans le travers de Caïn et de beaucoup d'autres, est-il possible que ce que Dieu pose dans l'Alliance soit une référence pour nous? Et cela voudrait dire que, par exemple, au moment où nous nous retrouvons pour lui rendre un culte, est-ce qu'on se prépare? Quel temps donnons-nous à célébrer Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait, pour ses hauts faits, pour ses actes, de nous rappeler qui est Dieu? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter sa loi? Est-ce que nous prenons au sérieux les signes du sacrement qui nous sont donnés? J'ai employé le terme. Mais est-ce que nous prenons au sérieux le signe de l'alliance qui nous est donné? Est-ce que nous prenons au sérieux l'envoi qui nous donne? Alors, pour clôturer ce moment, j'aimerais vous proposer un schéma type. C'est celui que nous avons à Nel. Donc, comme ça, ceux qui sont de Nel, vous savez déjà. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une découverte. Ah, c'est pour ça qu'on fait ça. Pour d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais vous proposer ce qui inspire la façon dont on fait à Nel. Le but n'étant pas forcément que vous fassiez un copier-coller, mais le but de tout ça, c'est de dire, quand je prépare un culte, quand je suis impliqué dans le vécu d'un culte, est-ce que je pense à ces choses-là? Et est-ce que je suis en mesure d'expliquer pourquoi on fait ces choses-là? Alors, Annel, ben voilà ce que nous faisons, c'est que nous voulons nous rappeler que le culte, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Nous, on nous rappelait aussi que Dieu, comme le dit l'Épître aux Hébreux, Dieu ne s'approche pas comme ça, la bonne franquette, « Ah, salut mon pote, ça va bien, on va se boire un coup ensemble et voilà, on est en relation. » Je pense que l'idée de révérence est quelque chose qui est un peu oublié. D'ailleurs, j'ai rarement entendu ce mot pour parler du culte. Et est-ce que ce n'est pas une exhortation? Vous savez, il y a Jésus qui parle du culte en disant que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais il y a donc l'auteur aux Hébreux qui dit avec révérence et crainte, ou révérence et émerveillement, enfin, tous les mots qu'on peut mettre là, mais gardons ne serait-ce que le mot révérence. Si je rentre dans une cour royale, comment je viens, comment je me présente, même si je sais que j'y suis accueilli, même si je sais que la notion de révérence, je crois qu'on l'a un peu enterrée en France avec la Révolution française, parce que la révérence était une guillotine pour nos rois, même s'il y avait des raisons de ne pas vouloir leur offrir la révérence, mais devant Dieu, je me demande des fois si on n'a pas guillotiné Dieu dans notre façon de faire les cultes, de venir avec révérence. Je sais pas comment, est-ce qu'on peut réfléchir à ça dans nos cultes et de se dire, voilà, alors si je viens vers Dieu, comment est-ce que je me prépare? Comment est-ce qu'on se prépare les uns les autres pour vivre un culte avec Dieu? Comment entrer dans la présence de Dieu? Justement, comment ancrer dans nos pensées cette notion de révérence? Dans quel état d'esprit on vient au culte ici? Alors, je vous laisse répondre à cette question comme vous le voulez. À Nel, ce que nous faisons, ce qu'on a, le choix qu'on a fait à ce stade, c'est de nous préparer au culte par un moment de silence. On pose un moment où simplement on se pose dans le silence. On a un temps de prière qui est une prière qui nous place, qui nous met en place. Dieu, tu es Dieu. Nous sommes tes créatures. Et en tant que créatures, on est absolument indignes de l'appel que tu nous fais. Mais tu nous invites. Alors nous venons. Et nous te demandons de nous laver, de nous préparer. Voilà, typiquement, prière qui est faite en introduction ici, suivie d'un appel tiré souvent des psaumes. Hein. Venez célébrer le Seigneur. Voilà, on est là maintenant et c'est le moment de nous retrouver dans sa présence. Et souvent, c'est là qu'on y place un cantique qui aura pour fonction ici de clôturer ce moment de préparation et de nous donner d'entrer dans le moment de culte. Alors, tout ça peut être variable, mais la question à répondre ici, c'est comment, dans quel état d'esprit on offre au peuple de Dieu que nous sommes amenés à conduire, si nous sommes des liturges, des pasteurs et autres ici, ou si nous avons notre mot à dire, qu'est-ce qu'on fait pour que le peuple de Dieu rentre dans la présence de Dieu et rentre dans la présence du Dieu de l'Alliance? Ça, c'est le premier élément ici. Suivi donc du moment de... Alors qu'on appelle couramment dans le milieu de louange, qu'est-ce que la louange, si on y pense, si on le place dans ce contexte de l'Alliance ici? Eh bien, c'est comment élever Dieu. Alors, élever, je l'ai mis entre guillemets dans mes notes, hein. C'est pas nous qui élevons Dieu, hein. Qu'on soit clair là-dessus. Mais comment faire en sorte que Dieu soit élevé à nos yeux, hein. J'espère que vous comprenez ça, hein. Alors, il y a des chants qui disent « Je t'élève, Seigneur ». Des fois, je me dis, il faut bien expliquer quand même, parce que qui sommes-nous pour oser dire une chose pareille? Mais on se comprend de dire, on veut être ensemble pour que Dieu soit vraiment Dieu sur son trône et qu'il soit célébré pour qui il est. Et donc, ça nécessite pour nous de nous rappeler qu'il est Dieu, de rappeler qui il est, et donc de nous rappeler l'œuvre de sa grâce et notre réponse de foi. Et ces éléments-là, Annel, et bien, ce que l'on fait, c'est qu'on prend un temps qui peut être extensible, mais un temps quand même qui est là, avec lecture de texte qui évoque chaque texte, dans un sens, on peut voir Dieu dans qui il est et dans ce qu'il fait. Et donc, de nous rappeler ces choses, après d'avoir des échos, un écho par des chants, par des commentaires, c'est là aussi qu'on fait rentrer, alors on peut le mettre à plusieurs endroits, mais on le fait rentrer ici, une confession de foi, parce que c'est aussi l'occasion pour nous de dire, Seigneur, oui, nous sommes là par la foi, et nous croyons en toi. Et nous croyons en toi parce que voilà qui tu es, voilà ce que tu as fait pour nous, et nous te louer pour ça. C'est-à-dire, quand on dit, nous croyons en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, c'est une façon pour nous de dire, on te loue parce que voilà le Dieu que tu es, et on t'exprime ça comme le préambule à notre relation d'alliance ici. C'est là aussi qu'on y met l'offrande, dans le sens de dire, Seigneur, parce que nous croyons en toi, parce que tu es Dieu, nous t'apportons une partie de ce que tu nous as donné ici. Et puis, des prières, plusieurs, louanges, consécration. Pareil, consécration, c'est une façon aussi de dire, Seigneur, on te donne nos vies. Ça peut être aussi prière d'intercession, qui consiste à dire, parce que nous croyons en toi, ben nous te demandons ces choses-là. Mais tout ça, c'est notre relation à Dieu pour nous rappeler que le Dieu de l'Alliance, c'est le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu auquel nous voulons élever, avec lequel nous avons une relation et avec lequel on veut avancer ici. Après cela, arrive le moment de la loi. Romains, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils, sous-entendu Dieu, comment entendre Dieu sans prédicateur ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La place ici, c'est que Dieu parle, et Dieu parle par sa parole. La lecture de sa parole. Au passage, Annel, on met un accent sur la lecture de la parole à ce stade, et si vous êtes venu, vous avez peut-être remarqué que nous faisons lever l'assemblée au moment de la lecture de la parole. Alors, certains m'ont dit, mais pourquoi on ne se lève pas à chaque fois qu'on lit la parole ? On pourrait, bien sûr, mais le fait de se lever au moment où la parole est lue, dans le sens de dire, Dieu parle. Un peu, c'est inspiré de Néhémie, hein, quand Néhémie a bâti une estrade pour être vue de tout le monde, pour que la voix porte, et le peuple, au moment de la lecture de la parole, se lève. Et je crois que le fait de se lever, parenthèse d'ailleurs, dans l'idée de tradition et de autres, dans nos églises, souvent on se lève quand ? Quand on chante. C'est jamais posé la question, est-ce que ça a du sens ? Si par exemple un chant, c'est un chant de repentance, on se lève et on se repent. Des fois, je me dis, notre gestuelle a besoin d'être un tout petit peu réfléchi quand on pense devant qui on est, devant notre Dieu ici. On essaye, on n'y arrive pas toujours. Des fois, on a des loupés. Mais on essaye, Annel aussi, de dire, il y a des moments où on se lève, des moments où on ne se lève pas. Il y a des chants pour lesquels c'est beaucoup mieux de les chanter assis. Le but du chant n'est pas forcément de faire en sorte que nos cantiques s'entendent trois quartiers plus loin. Ça peut être bien pour certaines occasions, mais il y a certains cantiques, c'est devant Dieu qu'on les chante. Et assis, on pourrait même évoquer par moment, je ne serais pas contre de réfléchir à l'idée de se mettre à genoux de temps en temps. Hein, ce n'est pas parce que les catholiques le font que ce n'est pas bon à faire. Il me semble qu'il y a des gestuels bibliques où lever les bras, c'est moins courant dans nos milieux là, de lever les bras, mais pourquoi pas. Mais de réfléchir à ces choses-là, ben, au moment de la lecture de la parole de Dieu, on se lève. On se lève, c'est quelque chose de solennel. Dieu parle par sa parole. Hein. Et donc ça paraît important ici. Puis la prédication qui est là pour exposer cette parole et l'amener à des applications concrètes. Ici, on pense encore au Dieu de l'Alliance. Il est là pour dire, voilà ce que moi, Dieu, je vous dis aujourd'hui. Voilà ce en quoi il est important, parce que je suis le Dieu de l'Alliance, je suis celui qui vous prépare une place, je suis celui qui vous conduit, celui qui connaît la différence entre le bien et le mal, celui qui vous donne, par une multitude d'exemples, la notion de grâce et comment y répondre par la foi, etc. Ça s'expose dans la prédication, avec application ici. Donc, on s'est préparé, on a loué Dieu pour qui il est, on écoute Dieu, et maintenant vient le moment de comment sceller tout cela. Et l'enjeu ici, c'est de répondre à la parole de Dieu par un engagement. On a souvent été évoqué tout à l'heure également le fait que dans l'Alliance, il y a un engagement mutuel, et clairement, dans l'Alliance, Dieu s'est engagé en donnant jusqu'à son Fils. Et il interpelle son peuple par un certain engagement ici. Et comment répondre à cet engagement ? Eh bien, c'est là que le signe de l'Alliance prend son sens, une partie de ses sens. Il y en a plusieurs, mais entre autres, dans notre pratique annuelle, nous faisons la scène tous les dimanches, et nous faisons la scène tous les dimanches précisément pour ça. dans le sens de dire ce que nous venons d'entendre, venant de la part de Dieu, ce que l'Esprit a dit dans mon cœur, ce que j'ai entendu de sa parole pendant ce temps de culte, qui me montre l'engagement de Dieu dans l'Évangile, qui me montre l'engagement de Dieu pour me mener quelque part ici. Maintenant, j'en fais quoi? Et le fait de faire la scène tous les dimanches, en fait, est très engageant, est extrêmement engageant, parce que je suis obligé de me positionner par rapport à ce que j'ai entendu dans sa parole. C'est-à-dire, ce que j'ai entendu me touche, et me touche au point de dire, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. J'en fais quoi? Eh bien, en prenant la scène, Dieu s'engage pour dire, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et le prix de cela, ça a été mon fils Jésus-Christ. Et la promesse, c'est que le jour vient, on sera pleinement unis ensemble. Mais aujourd'hui, tu as un défi qui est un défi de la foi. Je te donne ce signe comme mon engagement. Tu prends ce signe, c'est ton engagement et c'est un engagement de foi. Mais autre cas de figure, j'ai entendu quelque chose qui me parle et qui me met en sérieux porte-à-faux. Ça arrive des fois. Heureusement, pas tous les dimanches, mais ça peut arriver qu'il y a un moment où il y a vraiment quelque chose qui m'a touché dans cette parole et où je me dis, j'ai un problème à régler. Qu'est-ce que je fais? Je veux le régler ou je refuse de le régler? Et là, on se trouve dans une situation un peu ambiguë. Et là, je fais une parenthèse par rapport au texte de l'institution de la scène dans Corinthiens. C'est le seul, d'ailleurs, qui est là. Les autres sont dans les évangiles. Après, les textes font allusion, mais il est très intéressant de voir que dans ce texte, c'est souvent lu dans nos milieux, hein, il y a toute cette partie où Paul dit « Voilà ce que j'ai entendu, je vous le transmets ». Et puis, il donne un commentaire, il allonge en disant « Attention à bien discerner le corps du Christ, etc. » Parce que, si vous ne le faites pas, c'est pourquoi, dit Paul aux Corinthiens, « Certains parmi vous sont malades et même certains sont morts. » Pourquoi Paul dit ça? Intéressant, parce que ça ressemble étrangement à l'Alliance. Ça ressemble très étrangement à ce qui se passe dans ce qu'on a vu tout à l'heure dans les décrits. Et comme par hasard, 1 Corinthiens 11 est précédé par 1 Corinthiens 10. Et dans 1 Corinthiens 10, Paul, alors là, si on veut parler d'Alliance, il faut regarder 1 Corinthiens 10. D'ailleurs, parenthèse, la diapo tout à l'heure, c'était 1 Corinthiens 4, il faudra corriger. C'est copier-coller. Mais 1 Corinthiens 10, c'est extraordinaire. Parce que Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, il est en train de faire ce qu'on appelle une typologie, c'est-à-dire qu'il est en train de prendre le modèle alliantiel du peuple au désert, il est en train de prendre les problématiques que les Corinthiens ont, il est en train de regarder, le peuple d'Israël avait exactement les mêmes problèmes, et voilà comment les choses se sont passées dans le contrat d'alliance, et ils sont morts dans le désert. Ouf, c'est du sérieux là. Et Paul est en train de dire, un chapitre plus loin, en prenant la scène, attention, parce qu'il y en a qui venaient, ils avaient déjà bu plus qu'un verre de vin. Il y en a d'autres qui étaient en train de coucher avec leur belle-mère. Il y en a d'autres qui étaient en train d'avoir des choses absolument inouïes en plein milieu du culte. Et ils venaient prendre la Sainte-Seine tout tranquillou. Et là, Paul dit, ah non, attention, vous êtes en train de toucher à l'Alliance et au signe de l'Alliance. Il y a un manque total de révérence vis-à-vis de votre Dieu. Prêtez attention à cela. Donc, la scène engage. Mais la scène engage, pensons-y, c'est pas juste un texte qui dit attention si je déborde, c'est un texte que je crois faut voir vraiment dans le contexte de l'Alliance et de l'Alliance telle qu'elle est posée déjà dans l'Ancien Testament. Donc voilà aussi la continuité, donc invitation pour nous d'y réfléchir, etc. Et puis je termine avec le fait que les cultes, on part avec un envoi, avec une bénédiction, une bonne parole. Alors, si on était hyper cohérent avec l'Alliance, on ne le fait pas, hein, mais si on était hyper cohérent, ben, on pourrait dire, eh ben voilà, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, etc. C'est-à-dire qu'attention, si tu débordes, voilà. Mais on ne le fait pas trop, parce qu'on veut quand même partir sur une note d'encouragement. On a éventuellement évoqué les choses pendant la scène. Mais voilà. J'arrête ici, c'est juste pour donner une idée de dire en quoi la théologie de l'Alliance peut nous conduire. J'espère que vous aurez vu quelques éléments, puis on verra dans les questions-réponses, en tout cas, comment ça peut nous conduire, en effet, à mieux comprendre le culte et à le faire. Et je termine juste en lançant ce défi, je l'ai déjà évoqué, mais de dire, dans nos pratiques, si on croit en la théologie de l'Alliance, si on croit que ça a du sens pour nous, est-ce que ça se reflète dans nos cultes? Et en tout cas, quels que soient nos choix, est-ce qu'on est en mesure d'expliquer pourquoi on fait les choses? Est-ce qu'on est en mesure de dire, je pense que vous avez entendu ici, de dire pourquoi on fait un temps de silence, pourquoi on fait la Sainte Cène tous les dimanches, pourquoi on prêche à ce moment-là, pourquoi on fait la Sainte Cène après le message et pas dans la partie de louange avant. Eh bien, tout ça, en tout cas, je pense que vous entendez qu'il y a des réponses à donner ici, et ces réponses, on les argumente selon l'Alliance. Mais après, à vous de voir, seule chose que j'ai envie de vous exhorter à faire, c'est de dire quel sens vous donnez aux choses quand vous les faites.